Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
C'est mon invitée qui fait escale aujourd'hui au siège de l'ONU. Corinne Momalvagnan a fait le déplacement depuis Genève, où elle officie et gère le département de l'info des Nations Unies. Portrait d'une femme qui a émergé dans les coulisses politiques de l'ONU depuis plus d'une vingtaine d'années. Ma fille qu'à ce micro, bonjour à tous. Corinne Momalvagnan a été affectée de nombreuses années au siège de l'ONU à New York, ainsi qu'à son office de Genève et dans deux de ses commissions régionales à Bagdad et à Bangkok. Diplômée de l'École des hautes études commerciales de Paris en 1984 et de l'Institut d'études politiques en 1986, elle a travaillé auprès de Boutros Ghali et de Kofi Annan. Au micro de la radio de l'ONU, elle révèle quelques secrets sur les coulisses de l'ONU et son métier de porte-parole, ainsi que sur le corps de presse des Nations Unies à Genève. Corinne, racontez-moi un peu, c'est quoi ce monde des Nations Unies en Suisse ?
C'est le deuxième bureau le plus important des Nations Unies parce que on a toutes ces institutions spécialisées. On a l'OMS, le BIT, l'OMPI, alors tous ces acronymes incroyables, mais il y a 5 institutions spécialisées importantes, plus des fonds des programmes comme le HCR, donc le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Commissariat pour les droits de l'homme. En tout, je crois qu'à présent, on a 9000 personnes qui travaillent pour le système des Nations Unies à Genève. Donc c'est vraiment important dans des domaines comme la santé publique, avec l'ONU-SIDA et l'OMS, dans les domaines de l'humanitaire, avec toutes les activités opérationnelles de l'OCHA, mais aussi le Commissariat aux réfugiés. C'est un centre vital des Nations Unies.
Donc, en gros, on peut dire que les Nations Unies sont compartimentées. Le siège à New York avec tout l'aspect Conseil de sécurité, Assemblée générale et tous les dossiers politiques chauds d'actualité à gérer, mais aussi Genève qui revêt une importance primordiale puisque on se base surtout sur les sujets humanitaires et les sujets droits de l'homme. Vous avez vécu les deux, en fait, vous avez bossé pour les Nations Unies à New York, mais vous êtes aussi à Genève. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui est plus stimulant? Qu'est-ce qui est plus intéressant?
Alors, ce qui est très stimulant à Genève, c'est qu'on travaille constamment avec toutes les agences. Beaucoup plus, c'est moins compartimenté qu'à New York, en fait. À New York, il y a tellement de choses qui se passent déjà au secrétariat, avec le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, etc., qu'on a tendance parfois à oublier le reste du système. À Genève, on travaille main dans la main. Je vois chaque semaine, mes collègues de l'OMS, mes collègues du HCR, etc. Donc, on a une vision beaucoup plus large des activités des Nations Unies. Et puis, alors, c'est vrai qu'on fait moins de politique au sens du Conseil de sécurité, mais toutes les questions aux Nations Unies sont politiques, et en particulier celles des droits de l'homme. Donc, on est en plein dedans quand on parle d'actualité, etc. On a eu des sessions spéciales du Conseil des droits de l'homme sur la Libye, sur la Côte d'Ivoire l'an dernier. Donc, on est quand même au cœur de l'actualité aussi.
Le Conseil des droits de l'homme, c'est tout un programme, c'est beaucoup de commissions qui travaillent ensemble. Ça bouge énormément pendant toute l'année, même s'il y a certaines réunions qui se passent à New York. Quelle est la valeur du Conseil des droits de l'homme, non pas seulement pour les hommes politiques, mais pour les citoyens du monde?
Alors, pour les citoyens du monde, je pense que depuis la création du Conseil des droits de l'homme, puisqu'avant 2005, c'était la Commission des droits de l'homme, depuis la création du Conseil, ce qui est très important, c'est que chaque pays est soumis à un examen périodique universel. C'est-à-dire que chaque pays, que ce soit une petite île des Pacifiques, que ce soit la Russie, la Chine ou les États-Unis, à un moment donné, passe un examen des droits de l'homme devant le Conseil. Donc pour le citoyen lambda, il sait que son pays, à un moment donné, va devoir présenter un bilan des droits de l'homme devant le Conseil. Alors, il y a des gens qui sont cyniques, qui pensent que ça ne change rien. Je pense que, en général, les spécialistes, et on a énormément d'ONG spécialisées dans les droits de l'homme qui sont présentes et très actives à Genève, reconnaissent tous que le Conseil des droits de l'homme, ça a fait une différence. Ça met le doigt sur les problèmes dans certains pays, sur certains thèmes aussi, parce que ce n'est pas une question seulement de la situation des droits de l'homme dans tel ou tel pays. C'est la situation des droits de l'homme des migrants. C'est la situation de certaines catégories de personnes, des minorités, etc. Donc, ça vraiment, ça met le doigt sur les questions importantes et brûlantes en matière des droits de l'homme.
C'est le visage un peu humanisant des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme ?
Oui, tout à fait, parce qu'on parle de vraiment des droits de la personne. C'est-à-dire, fondamentalement, nous, les Nations Unies, on est là pour être sûrs que les droits de chaque personne, chaque individu, soient respectés. Et c'est ça, en fait, c'est les droits de chaque individu, le Conseil des droits de l'homme. Ce n'est pas le droit de ce pays, c'est les droits des individus.
Mais je ne sais pas si je vais vous poser une colle là, mais par exemple, prenons l'exemple de Kadhafi. Au lendemain de l'assassinat de Kadhafi, les déclarations émanant du siège étaient mesurées, fermes mais mesurées. Les déclarations émanant du Conseil des droits de l'homme étaient beaucoup plus militantes.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a eu une session spéciale du Conseil des droits de l'homme sur la Libye, qui a été très ferme, effectivement, et en particulier, la Libye était un membre du Conseil des droits de l'homme, et le Conseil a décidé de suspendre, de recommander à l'Assemblée générale qu'elle suspende la participation de la Libye au Conseil des droits de l'homme. Donc c'était assez poussé. Je pense que c'était une reconnaissance de la situation catastrophique des droits de l'homme à ce moment-là. Mais il y a deux choses. Il y a le Conseil des droits de l'homme et il y a la haut-commissaire aux droits de l'homme, Mme Pillay, qui a son franc-parler, dont c'est le mandat, c'est de parler. Parfois, elle parle de choses dont le secrétaire général ne va pas parler parce qu'ils ont des mandats différents. Et par exemple, récemment, lors de la mort de Kadhafi, son porte-parole, Mme Pillay, a dit très clairement à Genève, lors d'un point de presse, que les images qui avaient circulé sur l'Internet, sur la mort de Kadhafi et son cadavre, etc., n'étaient pas des images acceptables et qu'il fallait une enquête aussi sur la façon dont sa mort était survenue. Donc elle a son franc-parler et ça fait partie de son mandat.
I'm gravely concerned about the human rights and humanitarian crises that the country is facing.
Si je vous demandais tout simplement de revenir un petit peu à ce que sont les Nations Unies à Genève, si j'arrivais, je débarquais un jour et je vous demandais de me faire un petit tour, qu'est-ce que vous aurez envie de me faire voir en premier ?
D'abord, parce que j'adore ce bâtiment, je vous ferai voir d'abord le Palais des Nations, qui est un bâtiment historique, qui a un cachet incroyable, qui a été le siège de la Société des Nations dans les années 30 et qui garde un charme un peu rétro, mais qui néanmoins donc accueille 8000 réunions chaque année, qui est un centre vibrant, vivant du multilatéralisme. D'abord, je vous ferai visiter le Palais des Nations. Je vous montrerai tous les détails d'architecture, d'art déco des années 30. Et puis ensuite, je vous emmènerai probablement aux droits de l'homme, voir une session du Conseil des droits de l'homme et voir les pays membres discuter avec acharnement de telle ou telle situation. Parce que là, vous auriez vraiment le doigt sur le pouls des Nations Unies.
De nombreuses violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international ont été commises. Ces violations incluent, entre autres, des tuileries, des exécutions sommaires, des tortures, des viols et l'utilisation d'enfants.
Alors, une fois de plus, il y a plusieurs pôles importants d'activité des Nations Unies à Genève. Les droits de l'homme, on en a pas mal parlé. L'humanitaire, donc on en a parlé aussi. Je vous emmènerai voir le centre d'opération d'Ocha, où ils organisent toutes leurs opérations, par exemple, d'assistance en cas de désastre naturel. Et puis, le troisième pôle, donc c'est la santé publique. Je vous emmènerai parler aux gens d'ONU-SIDA qui font un travail formidable. Du Fonds mondial, alors c'est pas tout à fait les Nations Unies, mais on travaille beaucoup avec eux, qui font un travail incroyable dans le domaine de la santé publique.
Et juste une petite parenthèse au chest, c'est le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Pour revenir, en fait, pour s'arrêter quelques minutes, strictement sur votre travail de chargé d'information aux Nations Unies à Genève, en quoi ça consiste au quotidien ? Quelles sont les demandes les plus récurrentes ? Je présume que vous bossez beaucoup avec les journalistes. En premier lieu, quelles sont les demandes récurrentes des journalistes ? Comment vous les gérez, on va dire, en quelque sorte ?
Oui, alors on a un excellent corps de presse à Genève, parce qu'on a toutes les agences de presse, mais on a aussi un corps de presse très varié. On a 200 journalistes accrédités en permanence au Palais des Nations. Et ils travaillent beaucoup, ont leur bureau dans le palais. Donc ça rend les relations faciles et agréables. Alors effectivement, je suis beaucoup sollicitée, mais c'est mon travail et ça me plaît. En fin d'après-midi, je vous rappelle les pays examinés cette fois-ci. L'Estonie, Israël, Turkménistan, Cameroun, Argentine. Je vous rappelle aussi que cet après-midi à 16h, une réunion spéciale est organisée en salle 19, en présence du directeur général, pour marquer la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. D'autre part,
beaucoup de mon travail consiste à orienter les journalistes vers la bonne personne qui aura la réponse pour eux. Parce que moi, je ne l'ai pas forcément. On me demande une question sur la tuberculose, je ne suis pas capable d'y répondre. Mon travail, c'est de savoir constamment ce que font les Nations Unies à Genève et qui sont les personnes qui auront les réponses pour les journalistes. Alors, de temps en temps, quand il y a une grosse crise, en particulier humanitaire, on est aussi beaucoup sollicité. L'an dernier, au moment du tremblement de terre en Haïti, on a été beaucoup sollicité et ça arrive comme ça. Et souvent aussi, ce qui arrive, c'est si un événement arrive dans la matinée, c'est-à-dire que New York dort encore, on sera les premiers sollicités par défaut. Si New York dort, les journalistes vont nous appeler chez nous. Malheureusement, qu'on a eu le siège des Nations Unies à Abuja qui a été attaqué récemment, c'est nous, par défaut, New York dormait encore, c'est nous qui devions répondre aux questions et on n'avait pas toujours les réponses.
Pour ce qui est des annonces, beaucoup de conférences de presse aujourd'hui, demain et après-demain. Je vais laisser certains de mes collègues vous rappeler certaines d'entre elles, surtout pour aujourd'hui. Pour demain.
Beaucoup de journalistes tendent à croire que le travail de porte-parole, de chef d'information, de porte-parole, surtout dans les grandes institutions, mais notamment aussi pour les gouvernements, pour le compte des gouvernements, c'est tout simplement un travail ingrat où le porte-parole devrait donner le moins d'informations possible pour éviter les problèmes. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est pas du tout comme ça que je le vois. D'abord, moi, je pense pas que c'est un travail ingrat. Je pense que c'est un travail formidable, que j'adore personnellement. Je vois au contraire ça comme donner le plus d'informations possible. Au contraire, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et c'est normal de toute institution, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, qui ne sont pas du domaine public. Donc, moi, j'essaie de déterminer le maximum que je peux dire qui est dans le domaine public, et vraiment d'aider. Le problème des Nations Unies, c'est une énorme machine très très complexe. Nous, on la connaît parce qu'on est à l'intérieur. Mais pour un journaliste, parfois, c'est incompréhensible. Alors, mon travail, c'est de leur faire comprendre. Et j'essaie aussi d'utiliser la plus grande sincérité possible, c'est-à-dire de jamais cacher nos faiblesses, parce qu'ils les trouveront de toute façon. Mais dire que les faiblesses, elles sont liées à des contraintes qui ne sont pas de notre fait. Donc non, au contraire, franchise et aller le plus loin possible, tout en respectant les règles de confidentialité, évidemment.
C'est la femme en vous qui aime cette sincérité-là avec les journalistes?
Peut-être que c'est la femme. Je suis, il n'y a pas pour moi une question d'ego. C'est juste une question de coopération. Et puis je les aime, nos journalistes. C'est des gens qui s'intéressent aux Nations Unies, qui ont envie d'en parler. Et je pense que ça, c'est formidable et qu'il faut en profiter.
Et dernière question, puisque vous êtes l'invité de notre rubrique femmes, c'est une question que je pose à mes invités. Est-ce que les femmes font différemment ce boulot, en tout cas pour celui qui vous concerne, le travail de porte-parole et de chef d'information, est-ce qu'elles les font différemment que les hommes?
Ça, c'est une question difficile. J'essaie de réfléchir et de comparer. J'ai beaucoup de mes collègues porte-parole des autres agences à Genève qui sont des hommes. Je ne pense pas qu'il y ait une façon typiquement masculine ou féminine d'être porte-parole, si vous me demandez. Je ne pense pas. Alors, chef de l'information, ça comprend beaucoup d'autres choses. C'est la gestion d'équipe, etc. Et ça, je pense qu'il y a des façons très féminines de gérer des équipes et des façons masculines. Mais en tant que porte-parole, la fonction de porte-parole, je ne suis pas sûre qu'il y ait une façon féminine de le faire.
Mmh. Merci beaucoup pour cet entretien et bon courage et bonne suite.
Merci beaucoup, merci.
Les secrets et confidences de Corinne Memel-Vagnon sur le métier de porte-parole à l'ONU. Escale touche à sa fin. Merci à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. À Corinne Memel-Vagnon, à Frédéric Chouanière et Florence Westgaard, ainsi qu'à Carlos Macias à la technique. Bonne semaine à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle escale.
Il y a encore d'autres questions? Personne? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.